Les luthériens sont moins des hérétiques que des criminels de lèse-majesté. Chancelier Antoine Duprat, 1534.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Nombre de nos auditeurs sont des amateurs d'histoire, des curieux d'histoire. Et ils connaissent les grands noms de ces personnages qui ont servi la monarchie française. Sully sous Henri IV, Richelieu sous Louis XIII, Mazarin sous Louis XIV et encore Colbert sous le Roi Soleil. Mais sans doute connaissent-ils moins Antoine Duprat. Or, c'est ce personnage que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Antoine Duprat est né en 1463 à Issoire, en Auvergne, dans une famille de commerçants qui avaient également, dans leur ville, occupé des charges municipales. De plus, la famille, depuis le XIVe siècle, s'était alliée à des dynasties de financiers auvergnats qui avaient donné à la monarchie des secrétaires et des généraux des finances. Donc Antoine Duprat est finalement quelqu'un qui, par lui et de sa famille, et puis par ses propres mérites, s'est finalement élevé dans la hiérarchie sociale de la France du début du XVIe siècle. Tout d'abord, il a fait des études de droit et il est docteur en droit romain. C'est un travailleur acharné, ambitieux sans limite et sans doute aussi cupide, mais comme à peu près tous les hommes d'ailleurs de pouvoir de son temps. Il s'est marié avec Françoise Vénie d'Arbous, dont le père appartenait justement à une grande famille de financiers. Il conduit une carrière dans la fonction publique qui peut être considérée comme brillante. En 1495, il est lieutenant au bailliage de Montferrand. Puis ensuite, il est avocat général au Parlement de Toulouse. Et en 1503, il devient maître des requêtes. Son ambition le pousse à regarder vers la capitale. En 1505, il est conseiller à la Cour de justice parisienne. Il est d'ailleurs à Paris mal accueilli par ses collègues du Parlement qui l'accusent, sans doute d'ailleurs avec raison, d'avoir payé sa charge 4500 livres. Mais au demeurant, à ce moment-là de l'histoire de la monarchie française, il est devenu presque traditionnel de voir que les offices de la monarchie sont achetables, c'est ce qu'on a appelé la vénalité des offices, qui est à ce moment-là entrée dans les mœurs administratives du royaume. Il participe, sur ordre de Louis XII, à une enquête concernant le maréchal de Gué-Gier, qui est soupçonné d'avoir détourné de l'argent public. Il sert la reine Anne de Bretagne, qui est décidée à perdre le maréchal. Ayant donc servi convenablement, pour le moins, Anne de Bretagne et Louis XII, il va devenir en 1508 premier président au Parlement de Paris. Donc, il est à ce moment-là à la tête du plus grand parlement du royaume, qui est chargé d'enregistrer les édits royaux. Mais le meilleur est à venir. En effet, le 1er janvier 1515, Louis XII meurt, et son successeur, François Ier, va nommer dès son avènement Antoine Duprat, chancelier de France. Chancelier de France, c'est tout de même un poste ô combien important dans la monarchie. Il n'y a pas peut-être plus important hormis le roi. En effet, le chancelier est bien souvent garde des sceaux, c'est-à-dire qu'il est le personnage le plus important du gouvernement royal. Duprat va accompagner le tout jeune François Ier en Italie, là où le roi va s'illustrer à Marignan, et le souverain va lui confier une tâche délicate, négocier avec les représentants du pape Léon X un concordat. Celui-ci sera signé à Bologne en 1516 et mettra l'église de France dans les mains du roi, puisque c'est une église gallicane, le roi ayant la possibilité de nommer aux bénéfices ecclésiastiques des grandes abbayes et des diocèses. Pour un Duprat qui était imbu de théories et de pratiques du droit romain et également largement favorable à une église catholique gallicane, ce concordat est donc un succès. Qui plus est, le roi lui confie quelques missions diplomatiques. En 1517, il va négocier la campagne de candidature de François Ier à l'Empire, même si celui-ci finalement sera écarté par Charles Quint. En 1518, il négocie à Calais avec le cardinal Wolsey, qui représente donc la monarchie britannique, une tentative d'alliance avec l'Angleterre. Surtout, après la bataille de Pavie, où le roi a été fait prisonnier en 1526, eh bien, il s'agit de fournir une énorme rançon que demandent les Espagnols pour la libération du roi de France. Ainsi, Duprat, par ses pratiques diplomatiques, par ses connaissances du droit, parvient à négocier petit à petit le retour du roi et celui des enfants qui vont remplacer un temps leur père François. Et il faut bien le dire que à ce moment-là, le chancelier Duprat est sans doute le plus proche conseiller du roi. Il a sa confiance, même si le souverain sait bien que Duprat s'est enrichi. Il s'est enrichi comment ? Tout simplement parce que, devenu veuf, il a entamé une carrière ecclésiastique. En effet, il devient abbé de Fleury, il devient abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, ordonné prêtre, il est évêque dans 5 évêchés, dont le puissant archevêque de Sens, dont il est titulaire en 1525. Le pape Clément VII le crée cardinal en 1527 et il devient légat pontifical en 1530, ce qui fait que véritablement, il sert à la fois le pape Clément VII et le roi François Ier. Cela lui permet de s'enrichir sans mesure. Mais encore une fois, cette pratique était assez régulière finalement au XVe et XVIIe siècle. Mais le bonhomme a tout de même une vraie passion pour l'État royal. Et il va servir son roi en particulier, et ça peut être cocasse quand on sait que lui-même s'est enrichi au pouvoir, lors d'enquêtes contre des malversations qu'auraient menées certains représentants du roi dans les provinces. Ce qui fait qu'il parvient à mener des enquêtes qui vont conduire à des tribunaux d'exception certains financiers dans les provinces royales. À la fin de sa vie, Duprat va être confronté également à un autre problème religieux et politique, c'est celui de la réforme protestante. Celle-ci, dans les années 1520, n'est pas forcément mal accueillie par François Ier. Celui-ci est catholique, il se vit comme un souverain catholique, mais il est intéressé par certaines idées de la réforme, et qui plus est, il sait bien que l'Église catholique a besoin d'être réformée. Par contre, Duprat, lui, est tout de suite beaucoup plus sévère contre les luthériens, tout simplement parce qu'il estime que, plus qu'être hérétique, ce qu'on peut reprocher aux partisans de la réforme, c'est d'être des criminels contre l'autorité royale, des criminels de lèse-majesté, c'est-à-dire des personnes qui seraient en mesure de remettre en cause l'autorité de la couronne. Et il condamne donc avec fermeté les nouveaux faux prophètes, dont, dit-il, Luther et le prince. Là, par contre, il va se montrer extrêmement ferme. En 1534, après l'affaire des placards, c'est-à-dire après que libelle favorable à la réforme ait été placée sur la porte de la chambre de François Ier, il décide de frapper fort. Il fait établir des listes de suspects qu'il fait emprisonner et exécuter de manière spectaculaire. En effet, en janvier 1535, il conduit dans les rues de Paris une bien macabre procession où figurent le roi, les ambassadeurs, les conseillers du Parlement. Et cette procession va faire six arrêts devant des bûchers. Et à chaque fois, en présence du souverain, six condamnés seront brûlés dans divers quartiers de Paris. On le voit, Duprat a poussé le roi à utiliser la manière forte. À 72 ans, il meurt le 9 juillet 1535. Il n'aura pas été effectivement victime de ces prévarications, mais ayant bien servi le roi, ce n'est qu'après sa mort que François Ier entamera une enquête sur la fortune d'Antoine Duprat et qu'il en confisquera une grande partie.